Nous sommes en train de regarder l'épître de Jacques. On a commencé il y a plusieurs mois, mais on achève, on est rendu dans Jacques 5, le chapitre 5, le verset 14. On continue une idée que Jacques nous a amenée. On a vu dans les semaines, les deux dernières fois qu'on en a parlé, on a vu comment est-ce qu'on devrait réagir dans la souffrance. Comment est-ce qu'on doit réagir dans la souffrance?
On prie.
On prie. On se tourne vers Dieu. Après ça, on a vu comment est-ce qu'on doit réagir dans nos moments de joie. Comment est-ce qu'on devrait réagir dans nos moments de joie?
On glorifie.
Oh, ben Jean-Jacques, dans le texte de Jacques, ça nous dit qu'on lui chante des cantiques. Fait que ça, quand que ça va mal ou quand que ça va bien, on se tourne vers Dieu, soit en prière ou en louange. Mais peu importe notre état, faut prier, faut louer le Seigneur. Amen. Ce soir, Jacques continue son idée. Le verset qu'on va aller lire, c'est à partir du verset 14. Puis le sujet est comment réagir dans la maladie. Jacques nous dit, « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Puis s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Première chose qu'on remarque, c'est lorsqu'on est dans souffrance, on prie. Quand on est dans joie, on chante des cantiques. Puis quand on est malade, c'est la même réponse. Il faut encore se tourner vers Dieu. La première place à aller, ici dans le Nord-Américain, au 20e siècle, même je pense à d'autres places ailleurs, premier réflexe, c'est qu'on est malade, on pense au médecin. Ça, c'est un réflexe qu'on a développé avant d'être chrétien. C'est à notre réflexe. On devient chrétien, puis on va encore consulter le médecin, parce que la science, elle a évolué, puis ils ont des remèdes qui nous engourdissent, puis ça nous ralentit peut-être un peu, mais on souffre moins. Mais on pense pas toujours à se tourner vers Dieu. Ça, s'il faut développer ça, ce réflexe-là de se tourner vers Dieu dans toutes les situations. En réalité, que ça y aille bien, que ça y aille pas bien, on devra toujours garder nos cœurs et nos pensées en Jésus et parler au Seigneur. Tu travailles, tu peux penser au Seigneur. Tu peux être en train de conduire, tu penses au Seigneur. Tu peux être en train de parler, tu vas parler du Seigneur. Tu peux pour être toujours entretenir notre vie spirituelle. Le fait d'être malade devrait nous amener à chercher la face de Dieu, à se tourner vers Dieu. Premier réflexe qu'on devra développer. Dans ce verset-là, dans Jacques 5, 14, il dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade? » Parce que des chrétiens, ça peut être malade. Ça contredit une doctrine qui existe aujourd'hui, la doctrine de la prospérité. C'est que la doctrine de la prospérité, il enseigne que t'es chrétien, tu vas devenir riche. Puis t'es chrétien, t'es jamais malade. C'est pas biblique. C'est pas de Dieu, une pensée, cette pensée-là, mais il y a beaucoup d'églises évangéliques, des États-Unis surtout, qui prêchent ces idées-là. Puis le seul que je vois qui est riche dans la gang, c'est le pasteur. Parce qu'il se fait donner de l'argent, puis le monde croit à ça, puis il y a tout un... Lui, il est millionnaire, puis les autres, mais il n'arrache, puis il espère tout le devenir, mais ça marche pas, ça existe pas. Cette doctrine-là de dire que tous les chrétiens vont être riches, ça existe pas. C'est pas biblique. Puis de dire que les chrétiens sont pas malades, c'est pas biblique. Parce que dans ce passage-là, ça nous dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade? » Donc, les chrétiens, ça peut arriver qu'ils sont malades. Puis il y a des raisons aussi pourquoi qu'on est malade. Mais le réflexe, quand on est malade, faut développer le réflexe de se tourner vers Dieu. D'aller voir les anciens, puis demander de la prière. Des fois, c'est humiliant d'aller manger. Tu pries chez vous, t'es pas encore guéri. C'est quoi la prochaine étape? Mais c'est de demander de l'aide, aller voir d'autres chrétiens pour prier avec toi. Si des fois, si on est trop orgueilleux, on n'osera pas. C'est ça qui est un peu notre problème. Mais ce qu'il faut comprendre que dans ce verset-là, quelqu'un parmi vous est-il malade? Dans ce verset-là, il faut élargir un peu l'idée du mot malade. Parce que le mot malade, dans le grec, c'est pas juste au niveau maladie physique comme la grippe ou d'avoir des boutons ou n'importe quoi, là. Le mot malade est plus large que ça. Le mot malade, c'est asthénéo, qui veut dire malade en français, être malade, tomber malade, faible, faiblesse, faiblir, rendre sans force. Fait que l'idée de malade n'est pas juste au niveau maladie physique. Puis le sens est expliqué, être faible, être sans force, impuissant, être faible en moyen, nécessiteux, être pauvre. Même ça englobe le sens du mot pauvreté, être nécessiteux, c'est dans le sens du mot malade. Quelqu'un est-il nécessiteux? On pourrait mettre ce mot-là dans ce verset-là. Il veut dire aussi être malade, bien entendu, puis au sens théologique, pour parler de la faiblesse de la foi. Quelqu'un est-il faible dans la foi qui, à le voir, les anciens vont prier pour lui? Faible dans la foi, c'est autant une faiblesse. Tu peux être faible dans ton corps, t'es malade. Ça peut être la grippe, ça peut être moralement, ça peut être physiquement. Ça peut être spirituellement, la foi a baissé, les doutes, puis les combats, puis l'amertume dans le cœur. Toutes sortes d'affaires qui font que le chrétien il est plus rempli de l'esprit puis qu'il pète le feu. Mais si t'es pas dans cet état-là, ça veut dire que t'es pas dans ta pleine force que tu pourras. Si t'es plus là, t'as besoin, t'as faibli. T'es dans la catégorie de malade dans ce verset-là. Si on se sent faible physiquement, moralement ou spirituellement, on rentre dans la catégorie « va voir les autres qui vont prier pour toi ». Tourne-toi vers Dieu, mais demande aux autres de prier pour toi. Normalement, quand on parle qu'on est faible, on a faibli spirituellement, on ne se sent plus autant rempli de l'esprit, on ne se sent plus d'attaque. Ou moralement, on arrache, on est sur le bord du burn-out. Ou la dépression, puis il y a toutes sortes de maladies, puis où physiquement qu'on est rendu sur un down, puis on a pu, quand on est à fort, on est à fier, on a tellement montré notre force, mais quand on n'a plus la force, ça devient humiliant, ça devient gênant. Puis le premier réflexe que le monde a dans ces états-là, mais c'est de se cacher. Le monde se cache, reste chez eux, ils n'osent pas sortir. Puis, ou quand ils rencontrent du monde, ils mettent des masques. Avec des gros sourires, en fin de compte, en dedans, ils sont en train de pleurer. Ça file pas, mais pour pas perdre la face, ils essayent de se forcer, puis de jouer un rôle. Mais ils l'ont pu, ça, ils vivent pas. Puis, la force du Seigneur est plus là pour l'alimenter. Puis où la santé est plus là pour lui donner le pep puis le guts puis le power qu'il aurait dû avoir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de le vivre? Si on est franc, on lève la main. Ça nous a tous arrivé. Et on n'est pas tous des 100% pétant le feu dans le Seigneur en tout temps puis toute notre vie. C'est quasiment impossible. Si on est franc, on va l'admettre. On se cache quand on est dans ces moments de faiblesse-là. On met des masques, puis d'autres fois, on met à faute ses autres. On cherche un coupable, puis on trouve des excuses, puis on cherche à pas perdre la face comme si ça pourrait être nous le problème, puis on va toujours chercher quelque chose pour le remettre à quelqu'un d'autre. Puis des fois, même, on veut fuir Dieu et l'Église quand on fait le pas. Pourtant, dans ce verset-là, c'est le contraire que ça nous dit. Va à l'église. Va voir les anciens. Va chercher Dieu. T'es tout seul, t'es faible, t'as de la misère. Va à Dieu. Va crier à Dieu. T'es pas capable, correct. Va à l'église, mais d'autres vont t'aider. Ils vont prier avec toi. Tu seras pas tout seul. Les autres sont là. Toi, tu es à terre, mais les autres sont pas tous à terre. Il y en a qui sont capables de prier pour toi. Vas-y, puis sois pas gêné de le dire. Parce que ça traîne si tu le dis pas. Ça s'étire, puis ça peut rempirer. Parce qu'il y en a, là, que leur faiblesse a fait qu'ils en viennent au découragement, puis ils laissent tout tomber, plutôt que d'avoir affronté le problème, puis d'essayer de le surmonter avec l'aide des autres. Il y a peut-être de l'orgueil là-dedans, là, que les gens, ils n'osent pas, puis ils se pensent bien fin, puis ils disent, je vais m'en arrêter tout seul. Mais en réalité, tu t'aggraves ton cas, Dieu te le dit dans la parole, va voir les frères et sœurs, puis demande-leur qu'ils prient pour toi. C'est peut-être humiliant pour 5 minutes, mais après, quand tu es remonté, ça va être à ton tour de prier pour les autres. Nous voyons que la réaction biblique, de réagir de la manière biblique quand on est faible, c'est le contraire de la réaction humaine charnelle qu'on a habituellement. Parce que dans Galates 5:17, ça nous dit « La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, puis l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. » Quand tu es animé du pep de Dieu spirituellement parlant, puis que tu as une faiblesse dans ton corps, tu n'es pas gêné d'en parler, tu veux que Dieu te guérisse. T'es déjà pépé spirituellement. Mais surtout quand on a des dents au niveau spirituel, on n'ose plus demander de prière. On veut pas que le monde le sache qu'on le sent pas, puis qu'on n'est plus dedans, puis ça nous tente plus, puis on est découragé, puis on n'a pas la force. On n'ose pas le dire, puis on essaye de cacher ça aux autres, puis ça marche plus notre affaire. On le sent, mais on n'ose pas. Mais c'est pas d'être spirituel, ça. Ça, c'est d'être charnel. C'est ceux qui réagissent charnellement qui vont être comme ça. Parce que ceux qui sont bouillants pour le Seigneur, mais qui sont faibles physiquement, ils vont la demander à prière. Voyez-vous? Fait que si on s'aperçoit qu'on est rendu comme ça, qu'on a besoin de prière, mais surmontons notre chair, parce que notre chair, elle ne veut pas qu'on demande des prières, à trop d'orgueil. Surmontons, passons par-dessus ce que notre chair pense et réagissons de la façon que Dieu le dit. Il dit, là, va voir les frères et sœurs, ils vont prier pour toi. Dans Jacques 5,14, il nous le dit, quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui? Allez voir ceux qui sont là. De toute façon, ils sont là pareil, mais s'ils ne savent pas ce que tu vis, ils ne prient peut-être pas pour toi dans ce besoin-là. C'est pour ça que ça vaut la peine d'aller les voir. Nous remarquons que Jacques insiste sur le fait de demander à Dieu dans nos besoins. C'est pas la première fois que Jacques parle dans son épître de se tourner à Dieu. On l'a vu, on les a tous passés, les sujets, là, mais dans Jacques 1:5, il dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. C'est Jacques qui a dit ça aussi. Là, il dit, t'es dans la souffrance, prie. Il dit, t'es dans la joie, chante des cantiques, t'es malade, tourne-toi en cours en prière, va voir les autres, vont prier pour toi. Jacques, tu le vois dans sa manière qu'il parle, c'est un gars proactif. Lui, c'est un gars avec des choses concrètes, on ment pratique. Fallait. C'est ça son épître. La foi sans les œuvres est morte. Jacques, c'est ça. Lui, c'est une foi avec des œuvres, puis une foi obéissante à Dieu. C'est ça que ça dit. Puis c'est lui qui dit ça. Si tu pèches contre un seul des commandements, tu deviens coupable de tous. Tu peux pas. Jacques, c'est ment pratique. La parole, bornez-vous pas là. Bon, mais les choses pratiques, t'es malade, prie. T'es dans souffrance, prie. Tu manques de sagesse, prie. Bon, on pourrait changer ça pour tous les sujets. Tu manques de connaissances, prie. Puis tu lis, ça va aider. Va à l'église, ça va aider aussi pour apprendre. tout ce qui nous manque, tu as des besoins financiers, prie. T'as des besoins dans ta santé, prie. Tourne-toi vers Dieu, c'est là qu'il faut aller. Tout se passe là. Faut apprendre à s'accrocher à Dieu. Puis, j'ai pas vu un seul verset de la Bible que Dieu nous dit qu'il nous trouve fatigant de trop prier. Aucun verset nous dit de pas trop prier. C'est le contraire, ça nous dit de ne pas lâcher de prier. Voyez-vous? Amen. Philippiens 4:6, un autre, Paul dit lui tout la même affaire, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Tous les apôtres amenaient ça, mais chacun dans des mots différents, mais le point, c'est le même. T'as un besoin, demande à Dieu. Tourne-toi vers Dieu. Dieu va répondre à ton besoin. La maladie fait partie du plan de Dieu pour nous amener à lui. Si on est malade, inquiétez-vous pas, Dieu savait qu'on était malade. Puis peut-être aussi le monde autour de nous autres le sait, là, à nous voir aller. Mais Dieu est au courant 100% de nos maladies. Il les permet. Puis il sert de ça pour pouvoir nous rapprocher de lui. Pour qu'on s'approche de lui. Quand on souffre, prie. Ben là, si on l'obéit, on va s'approcher de lui. C'est sûr qu'on peut réagir. Moi, je suis malade, c'est à lui de pas me vouloir me rendre malade. Puis on se rebelle contre Dieu, puis on prie pas. Mais c'est sûr que là, on marche pas par la foi. On marche dans quasiment en ennemi de Dieu, là, en rébellion. Mais ce que je vois dans ce verset-là, il dit la maladie, je vous dis que la maladie fait partie du plan de Dieu pour nous amener à lui. Dans Jacques, dans ces versets-là, lui, il dit, quelqu'un est-il malade, qui appelle les anciens, que les anciens prient pour lui. Puis là, il donne une autre idée par la suite. La prière de la foi sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il sera pardonné. Voyez-vous? Trois choses qui vont résulter de la prière. Trois choses que Dieu va faire. S'il en a besoin, naturellement. Tu vas prier, ça dit, la prière de la foi va sauver le malade. Il y a des maladies, puis on va en voir un exemple tantôt, que si tu n'es pas guéri de cela, tu vas en mourir. Dieu peut, il faut le croire, que Dieu peut guérir toute maladie, toute infirmité. Il est capable, c'est écrit, il le faisait. Le 2000 ans, puis Jésus est encore le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toutes les maladies et les infirmités, il les a guéries. Ça dépend de nous si on a la foi pour le demander. Parce que lui, il l'a déjà fait. Il est capable de le faire encore. Jésus, en ressuscitant, il n'a pas réduit en puissance. Ça nous dit, quand il est ressuscité, que tout pouvoir lui a été remis dans le ciel et sur la terre après sa résurrection. Fait qu'il n'a pas baissé en puissance, il a augmenté en puissance. Il nous dit que la prière de la foi va sauver le malade, puis ça nous dit le Seigneur le relèvera, ça veut dire qu'il va le guérir, puis des guérisons, il y en a des instantanées comme qu'il y en a qui sont progressives. Jésus lui-même a vécu ça, de guérir quelqu'un, mais pas juste d'un coup. Il est obligé de prier deux fois pour l'aveugle pour qu'il voie distinctement. Si c'est arrivé à Jésus, il faut s'attendre, ça peut nous arriver aussi, que Dieu s'attend à ce qu'on demande de la prière plus que de foi. Puis de l'autre affaire, il dit, s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Parce que la maladie peut être aussi à cause du péché. Il y a toutes sortes de raisons pourquoi qu'on est malade. On les sait pas tout le temps, mais quand on prie, Dieu peut les révéler. Puis si la personne le sait, qu'elle a fait des péchés, puis qu'elle les a pas confessés, puis là, elle sent que la personne, que c'est à cause de ses péchés. Mais il faut qu'elle les confesse. Tu n'as pas le choix. Dieu, il t'a donné une maladie à cause que de tes péchés. Tu le sais que c'est à cause de cela, mais faut que tu demandes pardon. C'est ce que ça dit dans le restant du texte. Dans certains cas, la maladie peut être une conséquence du péché, puis Dieu s'attend à ce qu'on le confesse. Dans Jacques 5,15, qui est encore la suite du verset, « Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Puis au verset 16, « Confessez donc les péchés les uns aux autres. » C'est que là, dans ces cas-là, c'est pas de confesser à tout le monde. Là. On parle pas de confession générale, publique, devant tout le monde. Là, tu es allé voir les anciens, tu es avec des gens que tu as confiance. Si tu n'as pas confiance, puis tu penses qu'ils vont répéter ça, va pas voir lui, va voir un autre. C'est pas une affaire publique, là, c'est une affaire privée. Mais si tu sais que tu as quelque chose que Dieu, il te demande de le confesser, tu le ressens, tu le vis. T'as un combat en dedans de toi, ça te travaille. Puis là, tu voudrais le dire, tu retiens ça, mais faut que tu le dises. T'as pas le choix, c'est Dieu qui veut t'amener là. Va voir un ancien ou des anciens, puis confesse ton affaire, ils vont prier pour toi, tu vas être guéri, tu vas être relevé, puis peut-être que tu vas être sauvé. Parce qu'il y a des maladies qui mènent à la mort. On va le voir tantôt dans un exemple. Le péché est une source de blessures et de souffrances. Les deux idées que Jacques nous amène, quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Puis l'autre, après ça, il répète l'autre idée, quelqu'un est-il malade, mais qu'elle voit les anciens qui vont prier. Il y a un verset qui nous parle que le péché, c'est une source de blessures et de souffrances. Quand tu traînes des péchés qui sont pas confessés ou continuer à les pratiquer, tu peux te sentir mal, tu peux te sentir en souffrance, tu peux devenir malade, ta vie spirituelle va se détériorer, tu baisses dans ton intensité de désir de vouloir servir le Seigneur, de vouloir prier, de vouloir lire la Bible, de vouloir aller à l'église, tout s'éteint, t'es plus à l'aise avec les chrétiens, tout va avoir une détérioration à cause du péché. C'est important de pas rester dans le péché. Si le Seigneur nous montre quelque chose, mais il faut le confesser. Dans Jérémie 30:15, ça nous dit, « Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur que cause ton mal? » C'est Dieu qui parle. « C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, que je t'ai fait souffrir ces choses. » Là, c'est Dieu qui est en train comme punir. Ça peut être pris comme un peuple tout entier qui est dans le péché puis qui vit dans la débauche. Puis toutes les souffrances puis les maux que le peuple a souffert, c'est à cause de la multitude de leur péché que Dieu le fait pour serrer la vis. Individuellement, il y a des versets aussi que Dieu châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Il est châti en lui serrant la vis dans un sens encore. L'idée, c'est Dieu est obligé de nous rendre malades, de nous rendre faibles, de nous faire sentir tout croche en dedans, puis que notre vie se détériore physiquement, moralement ou spirituellement quand on pêche. Je dis pas que toutes les fois qu'on est malade, que c'est à cause d'un péché. Mais ça arrive qu'on peut être malade à cause d'un péché. Si, de toute façon, si on est malade à cause d'un péché, on le sait. Le péché nous sonne dans notre tête. Notre conscience nous le dit. C'est comme si y a les lumières tiltent en dedans, puis tu le sens, tu penses à ça, puis tu le sens qu'il y a quelque chose qui... Tu sais qu'il y a quelque chose que tu devrais pas faire. Puis Dieu est en train de te parler avec tout ça. Puis quand en plus t'en tombes malade, mais c'est encore un signe qu'il faut que tu ailles voir les anciens, tu le confesses. Dieu peut permettre que vous ne soyez pas guéri dans votre prière personnelle parce qu'il veut que vous preniez le courage pour surmonter l'orgueil puis demander des prières aux anciens. Il y a des cas que ça fallait que ça arrive, vu que c'est, parce que la personne, ça l'a prié chez eux, elle aurait pu être guérie tout de suite là. Puis souvent, les gens peuvent être guéris. Mais dans les moments de faiblesse, c'est pas juste à cause des péchés, là, mais t'as un moment de faiblesse, tu pries chez vous, ça marche pas, puis des fois on laisse tomber plutôt que d'insister, de vouloir être guéri. Si on veut être guéri, faut savoir que ça nous dit dans ce verset-là, tu sais, des fois on parle là où tu as une promesse sur la guérison, ça en est une, le Seigneur le relèvera. Quand voient les anciens, ils vont prier, ils vont le relever. C'est une promesse, ça. Si on s'accroche, on veut vraiment être guéri, demandons-le avec fermeté, sans lâcher. Le Seigneur a promis que je serai relevé. Insistons à demander des prières, aller voir les anciens, ils vont prier, ils vont prier, ça peut être plus qu'une fois. Parce qu'il y a des fois qu'ils ont été obligés de prier, même avec des jeûnes. Tu pries, Jésus jeûnait lui aussi, beaucoup. Puis il priait, puis il jeûnait. Son onction était sur lui, il priait et puis il jeûnait quand même s'il était le Messie. Mais là, ça nous dit dans Jacques 5,16, de prier les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Ça veut dire, un chrétien qui est malade devrait avoir pour but de vouloir être guéri. C'est ça qu'il est en train de dire. T'es malade, mais va voir les anciens afin d'être guéri. C'est-tu normal qu'un chrétien veuille rester être malade? Pense pas. Parce que si tu as la possibilité de guérir, puis tu fais pas l'effort de le demander une fois, deux fois, cinq fois, dix fois, on irait peut-être volontiers aller voir le médecin pour 10 fois pour se faire suivre dans une maladie. On n'ira pas demander 10 fois des prières pour recevoir la guérison. Peut-être que notre foi est trop faible, qu'on manque réellement de foi. On y croit-tu que c'est écrit qu'on peut l'être guéri? Puis afin que vous soyez guéri, ça veut dire, ayons pour but que Dieu l'a promis, veut qu'on soit guéri. Si on est déterminé, on va le voir. Si on n'est pas déterminé, on va aussi, faut pas oublier qu'on reçoit selon notre foi. Si on trouve ça drôle, on se moque, puis on doute, puis on fait comme Sarah, qui est la femme d'Abraham, puis elle était rendue âgée, elle était rendue à 89, puis les anges ont été à voir, puis l'année prochaine, tu vas l'avoir ton enfant, puis Sarah, elle rit. Oui, si je vais l'avoir. Elle est rendue à 90, elle était stérile toute sa vie. Elle a trouvé ça drôle. Puis on pense que ça n'arrivera pas. On pense peut-être que Dieu n'est pas capable ou Dieu ne veut pas. Pourtant, il y a plein de versets qui nous disent « il veut ». C'est notre foi qui est mise à l'épreuve. Puis on va recevoir selon notre foi. Mais Dieu ne nous force pas. Je pense qu'on a tout à gagner de faire des efforts. Puis quand on va recevoir une guérison, on va être content. Quand on va recevoir deux, alléluia, on va recevoir trois, quatre, cinq, on va voir plein de choses qui se passent parce qu'on est des gens qui insistent pour atteindre le « afin que vous soyez guéris ». Voyez-vous? Puis en plus, Dieu veut guérir, puis il veut aussi pardonner. Quand tu caches l'affaire, tu le sais. Là, on attend. Puis on se tourne vers les autres. Peut-être on critique, on chiale, puis on se plaint, puis on n'est pas content, puis on réagit négativement plutôt que d'aller puis demander des prières, demander pardon, c'est réglé. L'affaire s'étire. Dans le psaume 103, le verset 3, il dit « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » C'est pas pour rien que dans ce verset-là, il parle de pardonner puis de guérir. Parce que ça doit arriver plus souvent qu'à son tour, que la maladie qu'on a, c'est une conséquence d'un péché. Mais le pardon et la guérison sont conditionnels à nos prières. Comme qu'on le voit dans la prière du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons. Là, Jésus, en l'expliquant, il a dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. L'idée, c'est, faut prier pour demander, puis en même temps, des fois même, il y a même des conditions. Faut que tu fasses les choses que Dieu te demande. Dans 2 Chroniques 7-14, on le voit que c'est vraiment la guérison, le pardon et la guérison sont suite à la prière. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Voyez-vous, la guérison, la restauration et le pardon sont suite à la prière, l'humiliation, chercher Dieu, se détourner du mal, abandonner le péché. C'est ça que ça dit. Les chrétiens sont appelés à abandonner les péchés, à arrêter de pécher. Le péché rend le monde malade. Je vais vous lire une petite histoire rapidement du roi Ézéchias. C'est un roi d'Israël qui avait craint l'Éternel. Il a eu des bons coups et des mauvais coups, mais il a quand même craint l'Éternel. Puis là, il avait une maladie, puis son heure était venue. Puis Dieu a averti le prophète, il dit, va y dire, il va mourir. Dans 2 Rois, chapitre 20, les versets 1 à 6. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. C'était une maladie mortelle. Peut-être un cancer, quelque chose de même. Le prophète Élie, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur, puis fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Puis Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Isaïe, le prophète, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour au milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne, et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. » Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Ce gars-là, il craignait Dieu, mais son heure est arrivée. Il avait une maladie mortelle. Ça ne dit pas que c'était dû à un péché, mais il était malade. Et Dieu lui a dit, tu vas mourir. Il s'est reviré de bord. Il n'a pas appelé ses médecins. Il s'est tourné vers Dieu. Il a prié Dieu, puis il a pleuré. Il a cherché la face de Dieu. Il a supplié Dieu de le guérir. Le prophète qui venait de l'avertir qui était mourir, il n'a même pas eu le temps de sortir de la cour que Dieu a donné une parole. C'est-à-dire qu'il n'a pas prié si longtemps que ça. Il a donné une parole, puis il a dit, retourne-y, puis je pardonne. C'est ça qu'il dit, hein? Non, il dit, retourne à Ézéchias, le chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Puis j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi, de cette ville et cette ville de la main du roi d'Assyrie. Puis je protégerai cette ville. Un paquet de bénédictions est sorti suite qui s'est tourné vers l'Éternel. Voyez-vous, il faut faire cela. Dieu est miséricordieux. compatissant. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Il faut apprendre à se tourner vers le Seigneur puis lui demander selon nos besoins. Il ne faut pas gêner. Puis dans Jacques 5,16, ça dit « Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » La prière fervente, c'est ça qu'il a fait, ce gars-là. Il n'a pas juste demandé sur le bout des lèvres, sans aucun sentiment, d'une manière froide, comme peut-être même des prières, comme des prières désintéressées. Non, il voulait ce qu'il voulait. Hein? Il l'a demandé en suppliant, puis en pleurant, d'abondantes larmes. Des fois, quand on voit des passages de crier à l'Éternel, mais crier, c'est aussi pleurer, supplier, à genoux s'il faut, mais de croire que Dieu t'entend, puis que Dieu, mais il est capable de le faire, puis que Dieu croit, c'est que Dieu veut le faire aussi. Il dit la prière fervente du juste a une grande efficace. N'oublions pas que Dieu nous aime, mais il aime nous donner ce qui est bon. Jésus en a parlé dans Matthieu 7,11. Il a dit, si donc méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Doutons pas du vouloir de Dieu de vouloir nous bénir puis de vouloir nous donner ce qui est bon. Laissons pas le diable nous mettre dans la tête que Dieu veut pas nous exaucer. C'est un mensonge. Dieu veut nous exaucer. Puis si tu as demandé puis tu l'as pas eu, baisse pas les bras. Demande-le encore. Puis tu l'as pas encore eu, redemande-le encore. Tu l'as pas encore eu, redemande-le encore. Ouais, mais quand est-ce que je vais arrêter de le demander? Ben, mais tu sois guéri. C'est afin que tu sois guéri. Le but, c'est qu'on soit guéri. Faut le demander tant qu'on n'est pas guéri. Y a-t-il un amen à cela?
Amen.
Prions avec foi, avec ferveur. Amen. Seigneur, je te remercie pour ta parole, pour tous les beaux versets qui sont là. Ça fait du bien. Ça stimule notre foi. Ça nous donne le goût de prier. Puis c'est ce qu'on veut, Seigneur. Qu'on puisse apprendre à prier. Qu'on puisse te faire confiance. Voir ta main dans nos situations. On veut voir ta main dans nos situations. On croit, Seigneur, tu entends nos prières puis tu veux les exaucer. Délivre-nous de ce qui n'est pas de toi. Le péché qui nous tient captifs. Pardonne nos péchés. Purifie-nous de toute souillure de la chair. Puis remplis-nous de ton Saint-Esprit. Et guéris notre corps, guéris notre âme, guéris notre esprit, guéris notre vie spirituelle. Que le fait dise « Je suis fort » parce que tu nous fortifies. Puis merci de vouloir nous bénir. On te rend la gloire, Seigneur. Tu es notre Dieu. On est reconnaissant pour tout. Dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.